Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 70, numéro 70, et toujours sur le thème la prière. Le titre pour aujourd'hui sera « Guerre et paix ». Il est dit dans la sainte parole de Dieu, dans la Genèse, chapitre 1, verset 1 et 31, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici que cela était très bon. » Malheureusement, nous sommes tous à même de constater que tout n'est pas resté très bon, surtout aujourd'hui, donc actuellement. D'abord, il y a eu la guerre dans les cieux. Vous pouvez noter Isaïe, qui veut aussi dire Ésaïe, chapitre 14, versets 12 à 15, Ézéchiel 28, versets 12 à 17, et Revelation, Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 12, indiquant que Lucifer, l'un des archanges créés par Dieu, a mené la rébellion contre le Seigneur et a cherché à se faire l'égal de Dieu. Ce péché et cette rébellion ont provoqué l'exclusion hors des cieux de Lucifer et de ses adeptes, et ceci par Dieu, et donc leur chute a été sur la terre. L'égarement, on peut dire, sur la terre a commencé. Depuis que Lucifer, Satan, est tombé sur la terre, il a constamment cherché à s'opposer à Dieu et à toutes ses actions. Il a constamment cherché à éloigner les hommes de Dieu. Et Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 13, nous rapporte que Satan a égaré Ève et poussé Adam au péché et à la désobéissance à Dieu. Remarquez que Dieu a dit à Adam de ne pas manger les produits de l'arbre. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. C'est Adam qui l'a répété à Ève. Par conséquent, Ève a été trompée par Satan, alors que Adam s'est adonné au péché consciemment et délibérément. La punition d'Adam et Ève a été la même que celle de Satan. Ils ont été rejetés de la présence de Dieu. Heureusement, il y a eu l'annonce de la venue du Messie. Dieu a dit que par la descendance de la femme, il provoquera l'éclatement de la tête de Satan et sa chute finale. Notez que le Messie, notre Sauveur, devait être la descendance de la femme et non un homme. Cela constitue la première référence à la naissance virginale de Christ. Ceci ou celle-ci te servira à la tête. Plutôt, je dois dire que celle-ci te visera à la tête. Pardonnez-moi. Oui, Christ a vraiment écrasé la tête de Satan au calvaire et il l'a dépouillé de son autorité. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Il a dit, toi, tu la viseras au talon. Tout au long de l'Ancien Testament, Satan a sans cesse cherché à effacer ou à corrompre la ligne messianique par laquelle le Sauveur allait naître et par lequel l'humanité entière serait sauvée. Son corps physique a été mis à mort, mais Satan n'a pas gagné. Satan a pensé qu'il avait gagné alors qu'il avait perdu. Dieu est toujours vainqueur. Alléluia. La mort de Jésus-Christ nous a apporté la vie. La guerre déclarée sur la terre par Satan depuis la chute de l'homme et l'annonce par Dieu de son plan de rédemption, Satan a tenté de contrecarrer le plan de Dieu et de détruire son peuple jusqu'à l'Église actuelle. Satan a donc déclaré la guerre sur la terre, accompagné du tiers des anges, qui sont les anges déchus. Satan se cache derrière tout ce qui est diabolique dans ce système terrestre. Il vise à entraver, à dérober, à tuer et à détruire. Saint Jean chapitre 10, verset 10. Et il vise à s'opposer à Dieu, d'où son appellation d'antéchrist, et également à s'opposer à son peuple. Cependant, Dieu a une réponse. La sagesse et le pouvoir de Dieu se manifestera au monde par l'Église, au travers des chrétiens remplis d'Esprit Saint et engagés dans le combat spirituel par l'intercession. La victoire finale du bien sur le mal, celle du Seigneur et de son peuple sur les puissances des ténèbres, est donc assurée. Le combat de tous les temps a lieu, bien entendu, dans les cieux et sur la terre également, depuis que Satan et ses adeptes se sont rebellés, se sont opposés à Dieu. Tout au long de l'histoire cosmique, on observe une rébellion en sept tableaux et l'attaque de Satan lorsqu'il déclare la guerre carrément ouverte contre, premièrement, contre Dieu, la rébellion dans les cieux. Deuxièmement, contre la race humaine, Adam et Ève, à Babel, et ensuite par le déluge. Troisièmement, contre certains hommes clés auxquels a été donnée la promesse du Messie, tels que Abraham, Isaac, Jacob, Judas, David. Quatrièmement, contre la nation d'Israël et de Judas au temps de l'Ancien Testament. Cinquièmement, contre Jésus-Christ le Messie et Sauveur du monde. Sixièmement, contre la nation actuelle d'Israël. Et septièmement, contre l'Église, les saints, et ceci tout au long de l'histoire de l'Église. Examinons ces points un peu plus en détail. Quelle est la tentative de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu ? Après la chute d'Adam et Ève et la promesse du Messie faite par Dieu, Satan tente de contrecarrer le plan de Dieu par les 12 points suivants. Alors écoutez bien et notez les indications bibliques. Premièrement, par l'assassinat d'Abel par Caïn, ce dernier étant ensuite rejeté. Cependant, Ève a ensuite donné naissance à Seth par cette lignée. Plus tard, le Messie est né. Genèse chapitre 4, versets 1 à 16, ainsi que les versets 25 et 26. Deuxièmement, par la pollution de la race humaine avant le déluge. Genèse chapitre 6, versets 1 à 8. Les Néphilim, verset 4, sont des géants, ce sont des anges déchus. À cette époque, les fils de Dieu, les Néphilim, se sont mis à se marier avec les filles païennes de l'homme. La méchanceté a ainsi pollué la terre. Mais Dieu a trouvé un homme juste. C'était Noé. Et c'est par lui et sa famille que la race humaine a survécu au déluge, bien que Dieu ait détruit le reste du monde. En réalité, Dieu aurait anéanti la terre s'il n'avait pas promis à Adam et Ève qu'un Messie viendrait pour écraser la tête de Satan. Troisièmement, par la rébellion à Babel. Lorsque les hommes ont tenté de reproduire ce que Satan n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire de s'élever dans les cieux et de devenir les égaux de Dieu. Alors Dieu a brouillé leur langage et a dispersé le peuple. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Quatrièmement, par la stérilité de Sarah. Dieu avait promis que le monde serait béni par la descendance d'Abraham. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Sarah étant stérile, Abraham avait eu un enfant de sa servante, mais Dieu avait dit que le Messie viendrait par Sarah. Genèse chapitre 16, versets 1 à 15, ainsi que le chapitre 17, versets 15 à 21. Sarah a donc conçu un enfant à l'âge de 90 ans et elle a donné naissance à Isaac. Dieu a promis que la descendance d'Abraham serait bénie au travers d'Isaac. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, son unique fils, Abraham a fait confiance à Dieu. Si nécessaire, eh bien oui, il le relèverait. Il le ressusciterait d'entre les morts afin d'accomplir sa promesse. Genèse chapitre 22, versets 1 à 18, ainsi que Hébreux chapitre 11, versets 17 à 19. Cinquièmement, par la stérilité de Rebecca, Isaac avait épousé Rebecca qui était stérile. Dieu ayant permis qu'elle mette au monde des jumeaux, Ésaü et Jacob, il dit que la promesse s'accomplirait par Jacob, le plus jeune. Genèse 28, versets 13 à 14. Jacob a obtenu le droit d'aînesse, hélas, par la ruse. Sixièmement, par la stérilité de Léa, Jacob était marié à Léa, mais elle était également stérile, au moins pendant 7 années. Plus tard, elle a porté Judas. Genèse chapitre 29, versets 31 à 35. Le nom de Jacob, qui signifie « celui qui supplante », a été changé en Israël, c'est-à-dire celui qui règne avec Dieu. Alléluia. Dieu a renouvelé sa promesse que le Messie naîtrait de sa lignée. Genèse 35, versets 10 à 12. Jésus-Christ était le lion de la tribu de Judas. Apocalypse, chapitre 5, verset 5. Septièmement, par la famine et la privation possible. Oui, la famine et la privation n'ont été prévenues que grâce à Joseph. C'est Joseph qui avait prévenu la famine. Et le frère, il était le frère de Judas. Et que Judas a été protégé de la privation. Genèse chapitre 41 et 42. Malgré cela, la vie de Joseph a été menacée par deux fois. L'une en raison de la jalousie de ses frères. L'autre, eh bien, c'était en prison. Oui, nous arrivons à huitièmement. Là, on peut dire par l'assassinat de tous les bébés et mâles israélites ordonnés par Pharaon, selon Exode chapitre 1, verset 8 à 22. Donc, Dieu a sauvé Moïse. Il a délivré par son intermédiaire tous les Israélites des mains des Égyptiens et les a protégés dans le désert, même lorsque Dieu a songé d'abord à les exterminer en raison de leur péché continuel, de leur idolâtrie et de leur rébellion. Il y avait de quoi. Nombre chapitre 14, verset 1 jusqu'au verset 38. Il y a de quoi d'étudier cette sainte Bible. Satan a persuadé les Israélites d'épargner la vie de quelques païens dans la terre promise et d'établir un compromis puis de se marier entre eux. Ça, c'est la malice, la ruse, fourberie de Satan. Neuvièmement, par la tentative de Goliath à tuer David. Goliath et ses quatre frères, selon 1 Samuel, chapitre 17, et de 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 à 22, ainsi que 1 Chronique, chapitre 20, verset 4 à 8, ont tenté d'anéantir David. Mais la promesse de Dieu devait être remplie par David et par son fils Salomon. 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 à 17. Saül a également essayé d'attenter à la vie de David par deux fois. Selon 1 Samuel, chapitre 18, verset 10 à 11. David a été poursuivi par Saül, lorsqu'il est devenu évident que ce dernier serait remplacé par David sur le trône. Dixièmement, par la confédération des armées qui a tenté d'anéantir le roi Josaphat et le peuple de Juda. 2 Chroniques, chapitre 20. Souvenez-vous que c'est par Juda que le Messie devait naître. Onzièmement, par le plan d'Assuérus pour exterminer toute la race juive. Le méchant Haman a convaincu Assuérus d'exterminer les Juifs, mais Dieu a placé Esther, une juive devenue reine, dans le palais et a un rang favorable avec le roi, afin de démontrer cette extermination planifiée et d'accomplir sa promesse. Esther chapitre 8. Et douzièmement, par le roi Nabucodonosor, donc nous appelons aussi Nebuchadnezzar, a donc vaincu Jérusalem et il a détruit le temple et il a amené beaucoup de gens en captivité à Babylone au jour de Daniel. Daniel chapitre 1. Mais 70 ans plus tard, en réponse aux intercessions de Daniel, la victoire ayant été remportée au travers du combat spirituel dans les cieux, Daniel chapitre 9 et 10, le peuple a été relâché. Sous Cyrus, le roi de Perse, ils ont été autorisés à repartir et à reconstruire le temple et les murailles qui entouraient Jérusalem. Cependant, quelques 480 années plus tard, les Juifs sont retournés sous domination étrangère, et cette fois-ci sous la domination des Romains. Il reste cependant que Dieu a toujours préservé le peuple juif et la lignée messianique afin d'accomplir sa promesse. En dépit de ses efforts permanents de Satan, le Messie est miraculeusement venu au monde de manière virginale, comme Dieu l'avait promis, descendant d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Israël. Jacob, qui est devenu Israël, de Judas et de David. Donc, en dépit des meurtres, des assassinats, du péché, de la stérilité, de la famine, des armées ennemies et de la domination étrangère, la guerre de Satan contre Dieu et son plan, d'une durée de 4000 ans depuis la chute d'Adam et Ève, est restée un échec. En fait, la naissance de Christ, sa vie, son ministère, sa mort et sa résurrection, beaucoup de prophéties ont été accomplies, souvent de façon surprenante. Ensuite, nous avons les attaques de Satan contre Jésus-Christ. Satan a essayé d'anéantir la vie et le ministère de Jésus-Christ de plusieurs façons. Voyons un peu cela. Premièrement, Marie était enceinte de presque 9 mois lorsqu'elle s'est rendue de Nazareth à Bethléem à Dodan, soit environ tout de même 150 kilomètres. Deuxièmement, Hérode a tenté de détruire Jésus-Christ de même que les jeunes garçons âgés de 2 ans et moins, mais Dieu a prévenu Joseph dans un songe. Ainsi, Jésus, Marie et Joseph ont pu fuir en Égypte. Troisièmement, Satan a enclin Jésus au péché. Dans ce cas, il n'aurait plus été le sacrifice parfait pour notre péché à nous. Ensuite, à l'adoration de Satan, eh bien, c'est plus possible d'accepter un compromis et utiliser la facilité. Donc, il aurait dû rejoindre, dans sa rébellion, le rejoindre contre Dieu. Ça, c'est la ruse de Satan. C'est écrit dans Saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Quatrièmement, à 2 reprises, les Juifs ont pris des pierres pour exécuter Jésus. Saint Jean, chapitre 8, verset 59, ainsi que chapitre 10, verset 31. Cinquièmement, une fois, ils ont essayé de le précipiter dans un ravin, probablement avant de le lapider, comme le voulait la tradition juive. Saint Luc, chapitre 4, verset 29. Sixièmement, au travers de l'apôtre Pierre, Satan a essayé d'empêcher Jésus-Christ de se rendre à Jérusalem pour la Pâque et vers la croix. Saint Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, ainsi que le chapitre 26, versets 51 à 53. Septièmement, dans le jardin de Gethsémanie, Jésus a été tenté de renoncer. Saint Matthieu, chapitre 27, versets 39 à 44. Il aurait pu appeler 72 000 anges pour le sauver de la croix. Et huitièmement, Satan l'a même tenté de descendre de la croix avant de mourir. Saint Matthieu, chapitre 27, versets 39 à 44. Louons Dieu, car il ne l'a pas fait, et ceci par amour pour nous sauver. Gloire à Dieu. Jésus-Christ devait donc être crucifié. Psaume, chapitre 22, verset 16, ainsi que Galates chapitre 3, verset 13. Et toutes les tentatives de Satan visaient à empêcher le plan de Dieu et les prophéties à propos de la rédemption de l'humanité. Finalement, lorsque Satan a pensé avoir gagné et que Jésus-Christ soit mort sur la croix, c'est Satan qui a été spolié de son autorité et de son pouvoir. Il a été vaincu pour toujours. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Le péché était racheté et l'ennemi était vaincu. Toute l'autorité apparente de Satan aujourd'hui a été usurpée ou prise par l'égarement ou le mensonge. Cependant, le combat de tous les temps n'a pas pris fin sur la croix, car Jésus-Christ a été relevé d'entre les morts. En conséquence, Satan, au travers de l'histoire de l'Église, depuis la résurrection et l'ascension de Christ, a axé cette attaque sur l'Église et sur la nation d'Israël. Il a tenté d'usurper une autorité qui ne lui appartenait pas. Aussi longtemps que nous, les chrétiens, lui ouvrons la voie, il s'emparera de tout ce qui lui est possible de prendre. Pourtant, il ne peut pas prendre plus que nous ne lui autorisons, car la victoire nous appartient de plein droit par la croix. Nous devons garder le terrain conquis pour nous par Christ. Ensuite, nous avons la guerre contre Israël et contre l'Église. Aujourd'hui, Satan a déclaré la guerre contre les saints et contre la nation d'Israël. Or, le parallèle entre ces deux aspects est très intéressant. L'Église primitive a souffert de grandes persécutions. Actes chapitre 8, versets 1 à 3. Les 12 disciples, à l'exception de Jean, ainsi que Paul et Étienne, ont été martyrisés en raison de leur foi. En 70 après Jésus-Christ, les Romains ont détruit le temple et les Juifs ont été largement persécutés, brutalisés, assassinés et disséminés aux quatre coins de la terre. Ensuite, presque 2000 ans plus tard, et en accomplissement de ses promesses, Dieu a commencé à rassembler les Israélites dans leur terre promise. Ézéchiel chapitre 36, versets 22 à 28, ainsi que le chapitre 37, versets 12 à 14. De façon donc similaire, depuis la fin du premier siècle, l'Église a traversé maintes persécutions suivies au IIIe siècle et au siècle suivant, d'une période de ténèbres spirituelles et de déclin. On aurait pu penser que Satan avait gagné, que les portes de l'enfer avaient prévalu contre l'Église, voir Saint Matthieu chapitre 16, verset 18. Mais cela n'était pas le cas. Depuis les années 1500, Dieu a entamé le processus de restauration de l'Église jusqu'au commencement du XXe siècle, qui a débuté par un déversement de l'Esprit-Saint en plusieurs parties du monde, répandant ainsi l'Esprit de Dieu. Je répète cette phrase afin qu'elle soit bien comprise. Dieu a entamé le processus de restauration de l'Église jusqu'au commencement du XXe siècle, qui a donc débuté par un déversement, voilà, de l'Église, surtout de l'Esprit Saint. Un déversement de l'Esprit Saint, et ceci en plusieurs parties du monde, répandant ainsi l'Esprit Saint de Dieu aux quatre coins du monde. Voilà ce que je devais vous dire. En 1904, Dieu a commencé à déverser son Esprit Saint sur différentes parties du monde. En 1917, vers la fin de la Première Guerre mondiale, la Palestine a été créée. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, un réveil évangélique a commencé. En 1948, l'État d'Israël a été créé. En et les Juifs du monde entier ont commencé à retourner en Israël. Ainsi alors que l'un des objectifs d'Hitler était d'exterminer les Juifs, les deux guerres mondiales ont provoqué la création de la Palestine et puis Israël. En 1960, Dieu a commencé à déplacer son Esprit Saint à travers toutes les nations et dans toutes les sections de l'Église chrétienne, baptisant des centaines de milliers de chrétiens dans l'Esprit Saint et répartissant des dons du Saint-Esprit aux croyants du monde entier. En 1967, après une guerre de 6 jours surprenante, Israël a regagné toute la ville de Jérusalem ainsi que la rive ouest du Jourdain qui, naturellement, fait partie de la terre qui leur est promise. Tableau, nous avons donc là un tableau comparatif, je voudrais vous le donner, entre l'Église, Israël après l'Esprit et Israël après la chair. Voyons cela un peu de plus près. Nous avons donc d'une part l'Église et Israël d'autre part. Alors, 30 ans après Jésus-Christ, nous avons la mort de Jésus-Christ. Et 70 ans après Jésus-Christ, nous avons la destruction du Temple. 35 ans après Jésus-Christ, nous avons la persécution et dissémination de l'Église, les ténèbres et le déclin général et l'apostasie. De l'autre côté, 73 ans après Jésus-Christ, nous avons la persécution et la dissémination des Juifs dans le monde, et ainsi aussi le déclin du judaïsme. Nous revenons à l'Église, 1517. Eh bien là, nous avons le début de la réforme en 1517. Côté Israël, 1878, nous avons le début du mouvement sioniste. On revient à l'Église, 1904, le déversement de l'Esprit Saint et le début du mouvement de la Pentecôte. On retourne vers Israël. 1917, nous avons la déclaration de Balfour sur l'indépendance palestinienne. Nous revenons à l'Église. 1945, nous avons le réveil évangélique, message de la nouvelle naissance. Nous retournons à Israël. 1948, nous avons la renaissance d'Israël en tant qu'un État. Nous revenons à l'Église, 1960, nous avons la naissance du mouvement charismatique, la restauration mondiale du baptême et des dons de l'Esprit-Saint pour toute l'Église. Et revenons à Israël, en 1967, nous avons la guerre des 6 jours et la restauration de la rive ouest du Jourdain et de Jérusalem aux Juifs. Remarquez la manière dont Israël suit l'Église de très près dans les événements historiques. Aujourd'hui, beaucoup de nations musulmanes et arabes, ainsi que les Palestiniens, tentent toujours de détruire la nation d'Israël. Dans le même temps, l'islam aimerait beaucoup voir chuter l'Église chrétienne. Satan est encore au combat, et cela plus que jamais. Nous voyons ainsi un parallèle remarquable entre la nation d'Israël et l'Église, entre les attaques de Satan pour anéantir la lignée messianique et les Juifs, et ses tentatives pour détruire l'Église, entre la protection et la restauration de la nation d'Israël par Dieu et la protection et la restauration de l'Église par Dieu. Voltaire, en 1694, jusqu'en 1778, avait annoncé que la Bible serait oubliée dans une centaine d'années. Heureusement et curieusement, 100 ans plus tard, la maison où il avait vécu était achetée par une société biblique qui s'en servait comme de quartier général. Les ouvrages de Voltaire sont aujourd'hui tombés en désuétude, alors que la Bible est toujours un best-seller mondial. Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église » et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Saint Matthieu chapitre 16 verset 18. Cela est toujours vrai. Malgré les multiples attaques contre le peuple de Dieu, Dieu les a toujours préservés. En raison de la promesse de Dieu faite à Abraham, Isaac, Jacob et David, en son nom et en son honneur, Dieu suit toujours un plan stratégique pour la nation d'Israël, même si cette dernière rompt constamment les lois et les conditions de Dieu. Aujourd'hui encore, la majorité des Israélites ne pratique pas vraiment la religion juive. Moïse avait demandé à Dieu de ce que les Égyptiens et les païens diraient s'ils mouraient dans le désert. Peut-être affirmeraient-ils que Dieu ne les avait pas protégés, n'avait pas pu les sauver ou n'avait pas tenu ses promesses. Mais, voyez-vous, Dieu a promis, il avait promis, et de la même façon, toutes ces promesses faites aux chrétiens et à l'Église sont aussi valables aujourd'hui que hier, en dépit de nos manquements. Dieu n'est pas un homme pour mentir, est-il écrit dans Nombre, chapitre 23, versets 19 et 20. Qu'en est-il du futur? Vous avez appris que l'Antéchrist vient. Ainsi, maintenant, beaucoup d'antéchrists ont paru, d'où nous connaissons que c'est la dernière heure. Premier épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 18. Satan n'a toujours pas abandonné son entreprise de vaincre le monde et d'amener les âmes humaines à se rebeller contre Dieu. Dans les derniers jours, il régnera une grande persécution, une grande apostasie, mais aussi un immense réveil spirituel. Satan sait que son temps est compté. Et si vous vous reportez à la fin du livre de l'Apocalypse, chapitres 21 et 22, vous verrez qui est du côté du Seigneur et qui vaincra. La victoire finale appartient à Christ et à tous ceux qui sont à ses côtés. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, tant qu'il est le vainqueur. Nous, enfants de Dieu, nous sommes l'Israël spirituel. Israël signifie « régner avec Dieu ». Et il s'agit pour nous de diriger et de régner avec Dieu, maintenant et à jamais, sur l'ensemble des ennemis. Lorsque le prince de la paix reviendra et apportera la victoire finale sur Satan et ses adeptes, nous entrerons dans le repos éternel et dans la paix de Dieu. Et cette paix a été décrite ainsi. Primo, la victoire complète et totale sur l'ennemi. Secondo, cessation de toutes les luttes et de tous les conflits internes. Et tierso, entrée dans la plénitude des promesses et des bénédictions de Dieu. Jésus-Christ nous dit, ne craignez pas. L'ensemble du sujet du combat spirituel peut devenir négatif, effrayant et décourageant si nous n'y pensons pas et si surtout nous ne prenons pas garde. Et c'est évidemment pour cela qu'il est dit plus de 80 fois dans la Bible, ne craignez pas. Dieu a donc promis qu'aucune tentation ou mise à l'épreuve ne viendrait sur nous que nous ne puissions supporter. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il a donc promis que sa grâce nous suffit et que sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 10. Et il a promis, je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Hébreux chapitre 13 verset 5, et il nous a donné sa paix. Saint Jean, chapitre 14, verset 27. Dieu nous aime d'un amour éternel et parfait. Dieu a toute la sagesse et il sait ce qui est le mieux pour nous. Dieu a tout le pouvoir et toute l'autorité pour apporter ce qu'il a de mieux dans nos vies. Il nous suffit de lui faire confiance et de le laisser agir. Et c'est pourquoi nous ne devons pas craindre que la paix du Seigneur Jésus-Christ dirige nos cœurs et règne sur eux. Nous avons la victoire, laissons donc l'avenir dès maintenant. Et Jésus-Christ a dit, oui, je viens bientôt, amen, viens Seigneur Jésus-Christ, la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. Chers amis, avant de terminer cette étude, j'aimerais encore dire un mot au sujet des groupes de prière. Voilà quelque chose de très important. L'une des façons dont Dieu dirige actuellement son peuple est la formation de groupes de prière, plutôt des groupes restreints, 5 à 20 personnes, et souvent dans la maison de chrétiens. Beaucoup de ces groupes de prière incorpore aussi des temps d'étude de la Bible, bien que notre but principal soit d'étudier les différents aspects de la prière. Naturellement, les deux sont très importants. Ainsi, les premiers disciples disaient « Nous serons assidus à la prière et au service de la Sainte Parole. » Actes chapitre 6, verset 4. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Actes chapitre 2, verset 42. Pourquoi Dieu élève-t-il des groupes de prière? Premièrement, pour préparer la direction. L'un des problèmes de la plus grande partie de la structure de l'Église traditionnelle est que la direction réside entre les mains d'une poignée de gens. Il n'est pas rare qu'une église de plusieurs milliers de membres ne compte qu'un pasteur et 5 anciens. En ces jours précédents, le retour de Jésus-Christ, il y a 2 raisons essentielles à ce que Dieu veille et veuille surtout plus de dirigeants. Ça, c'est un fait. Et lors du déversement de l'Esprit-Saint dans le réveil spirituel des derniers jours, il aura besoin de quoi? De beaucoup d'évangélistes, de pasteurs, d'enseignants, etc., pour alimenter les nouveaux convertis. Il faut que les chrétiens se préparent maintenant à partager leur foi, à évangéliser, à enseigner aux nouveaux chrétiens et à garder le troupeau. Nous avons tous besoin de nous entraîner à trouver notre ministère, à le développer en Dieu et à commencer à nous en servir. Au dernier jour, il y aura une vaste persécution de l'Église. La liberté et l'ouverture que nous connaissons aujourd'hui n'existeront plus. Cela n'est pas dit pour provoquer la peur. Oh non, Dieu a promis, je ne te délaisserai ni t'abandonnerai. Souvenez-vous, Hébreux chapitre 13, verset 5. Ma grâce te suffit, a-t-il dit, car la puissance se parfait dans ta faiblesse. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui passe ou qui passa la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus, au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. À présent, nous devons affronter la réalité. Aujourd'hui déjà, dans la plupart des pays musulmans, eh bien l'Église fait face à une grande persécution. L'une des meilleures façons de fonctionner lorsque la grande Église n'est pas autorisée aux réunions, eh bien c'est de constituer de petits groupes de chrétiens afin de se réunir les uns chez les autres. Et Dieu nous prépare donc à ces temps de persécution et à la préparation des dirigeants est absolument indispensable pour que l'Église puisse survivre ou même triompher. Deuxièmement, pour apporter la maturité. Voyez-vous le problème d'être constamment alimenté spirituellement par de tierces personnes? C'est que l'on gagne en connaissance, mais que les occasions de pratiquer et d'apprendre par l'expérience sont rares. L'avantage de réunions hebdomadaires à petits groupes, c'est que le ministère est beaucoup plus développé et que beaucoup plus de gens sont impliqués dans le ministère de l'Église. Dieu veut que nous parvenions tous à la maturité. Les pasteurs n'ont pas pour seule fonction de garder le troupeau, mais aussi de l'encourager à grandir et à se développer afin d'utiliser les talents et les capacités que chacun a reçus de Dieu. Ainsi, chacun peut croître en maturité et l'Église peut être construite. Celui qui est toujours nourri à la petite cuillère et qui n'enseigne jamais ou aux autres quelque chose ne deviendra jamais adulte que Dieu peut désirer d'utiliser. Dieu souhaite que nous devenions tous des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, non pas que nous restions des bébés en Christ. Les petits groupes permettent donc à chacun de participer et chacun peut être encouragé à participer. En outre, on peut apprendre à développer son ministère au sein d'un groupe restreint sans ruiner une plus grande réunion en parlant hors sujet, sans être aussi réceptif à Dieu en faisant les mauvaises choses au mauvais moment. D'autre part, l'heure vient où l'activité satanique augmentera de plus en plus et de plus en plus il y aura des sectes qui vont s'élever, cherchant même à éloigner les saints. Il sera de plus en plus important que tous les chrétiens connaissent vraiment leur Dieu et sa sainte parole afin de combattre effectivement et efficacement un tel égarement. Troisièmement, pour combler également les besoins personnels. Il existe de nombreux besoins personnels et intimes, des problèmes, des questions, des conseils qui ne peuvent pas être effacés ou efficacement traités au sein d'un groupe qui serait trop grand, mais qui peuvent être partagés et débattus dans des petits groupes. Les petits groupes sont donc plus amicaux en général et plus personnels, plus informels, plus détendus et la véritable fraternité y est davantage possible. Certaines personnes, en particulier les non-chrétiens et les chrétiens d'appellation, se rendent rarement, voire parfois presque jamais à l'église, se joindront donc à ces petits groupes familiaux et pourront ainsi trouver Christ. Quatrièmement, pour fournir l'unité et enseigner la fraternité. Là où les chrétiens d'église diffèrent, se rassemblent régulièrement pour prier et de rechercher Dieu, il y a une véritable unité et la bénédiction de Dieu peut être ainsi établie. Psaume chapitre 133. Dieu veut briser les divisions qui sont créées par l'homme, qui séparent les vrais chrétiens les uns des autres et les orienter vers la véritable unité dans l'Église. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6, ainsi que Saint Jean chapitre 17, versets 9 à 23. La seule base de la division est entre croyants et non-croyants. Dieu parle beaucoup de fraternité dans la famille, dans l'église, dans le travail, dans l'État. Les petits groupes se réunissent généralement et régulièrement. Ils peuvent donc ainsi constituer une bonne façon de développer et de tester notre fraternité avec les autres. Et cinquièmement, pour prier pour de plus larges ouvertures. Les quatre raisons que nous venons de citer, toutes très importantes, sont essentiellement personnelles. Me préparer à diriger, me conduire à la maturité, combler mes besoins et m'unir aux autres. La raison la plus importante est probablement que Dieu élève des groupes de prière pour unir les chrétiens dans la prière pour des objectifs beaucoup plus larges, affectant ainsi les villes, les nations, voire même le monde. Il est très facile de prier pour ses propres problèmes. J'en suis bien conscient et il m'affectionne. Mais Dieu se préoccupe du monde entier, pas seulement de mon nombril et des milliers de chrétiens, des villes et des nations même ont besoin du message du salut. Il reste donc beaucoup de batailles, des batailles spirituelles à engager et aussi à gagner. Il y a beaucoup d'objectifs moraux, raciaux, politiques, industriels, sociaux qui nécessitent l'intercession par des groupes de chrétiens dirigés par l'Esprit Saint. Dieu élève des intercesseurs, des combattants de la prière qui apporteront leur participation dans la prière pour les villes et les nations. De grands combats doivent être menés en ces derniers temps et Dieu élève une armée de gens qui prieront ensemble et assisteront à la victoire de Dieu en leur nom. Voici donc, chers amis, quelques raisons expliquant le nombre croissant de groupes de prière que Dieu met en place actuellement. Nous allons donc maintenant terminer ensemble par la prière, si vous le voulez bien. Seigneur, en nous ordonnant de te rendre gloire et un culte qui t'est dû, comme au Créateur du ciel et de la terre, au Maître souverain de toutes choses, au Sauveur miséricordieux, en qui seul réside toute notre espérance, tu n'as pas voulu que nous puissions nous acquitter de ce devoir par de vaines démonstrations extérieures, par des actes auxquels le cœur ne participe pas, par des paroles que démentent nos sentiments secrets, tes regards pénètrent au fond de nos consciences et tu vois, ô Dieu, quelles sont nos dispositions et si c'est vraiment en esprit et en vérité que nous t'adorons en ce moment même. Si notre cœur était animé d'une foi et d'un amour sincère, sans doute, nos exercices de piété seraient sincères également et ils seraient plus fréquents. Jamais il ne nous semblerait pénible ni fastidieux de te prier, de lire et de méditer ta sainte parole. Mais les moments consacrés à ton culte, soit publics ou en particulier, seraient pour nous des moments de bonheur et de paix. Ce n'est point en multipliant nos exercices de piété que nous apprenons à te mieux aimer, Seigneur, oh non, mais nous reconnaissons si nous t'aimons en réalité au plus ou moins de désir que nous sentons d'en augmenter ou d'en abréger la durée. Si nous avons pour toi un véritable amour, il nous sera doux de te dire et de t'implorer tes bénédictions si nos cœurs sont froids et indifférents. Nos heures de prière et de culte seront des heures de fatigue et de contrainte. Que chacun de nous interroge sa conscience et ne méconnaisse point les vrais sentiments de son cœur. Que ta grâce agisse en nous, Seigneur, pour nous attirer à toi et autour de nous, pour nous défendre contre tout danger. Aie pitié de ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. Que ta bonté se fasse sentir à toutes les créatures et qu'elle s'étende en particulier sur nos familles et sur nos amis. Seigneur, que ton saint nom soit loué et béni à jamais. Amen. Et chers amis, merci encore, je le répète, pour l'intérêt que vous portez à tous ces messages, la patience de les écouter, et à bientôt à nouveau avec la continuité de la série, à mon avis, la plus importante concernant la prière. À bientôt, mes très chers amis, au revoir.